Voilà, alors le shiur donc c'est Kol Yisrael Shalem Chelo Ve'Avama. Tout Israël il a le droit au monde futur. Ce cours là il est pour les refouas de Chaya Michel, Julia Bat Désiré, et s'il y a d'autres. Léa Bat Zimboul.
Et Chana Ani Bat Polet.
Chana Ani Bat Polet.
Rivka Bat Myriam.
Pour la refoua, pour le rétablissement.
Pour la santé, la refoua,
le bon rétablissement. Ok. Alors, évidemment, c'est un cours qui, je ne vais pas dire atypique, mais enfin, c'est un cours qu'on n'a pas forcément dans les cours qu'on donne comme ça. Kol Yisrael Yashem Chono Kolomba, tout Israël, il a le droit au monde futur. Alors, déjà, il faut décrire qu'est-ce que c'est le monde futur, qu'est-ce que c'est que.
C'est qui Israël ?
On va voir aussi. Kol Yisrael Yashem Chono Kolomba. Alors, évidemment, je vais pas maintenant faire une étude. Kol Yisrael, tout Israël a le droit, chélek, à une partie du monde futur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à tout le monde futur. Chelek le olam haba. Et ce n'est pas écrit chelek ba olam haba. Et ce n'est pas écrit une partie dans le monde futur. C'est écrit une partie du monde futur. Tout ça, il y a des raisons. Maintenant, ça veut dire quoi? J'ai le droit à une partie. Parce que nous, en général, les juifs, ils veulent avoir tout. Ce n'est pas que. Tout le but, hein, pas un petit truc. Alors. Il faut savoir que dans les Sfarim, surtout, c'est surtout dans les Nevi'im, qu'on voit la notion qu'il y a des mondes. Il y a l'Olam Hazeh, ce monde-ci. La Gemara, elle va expliquer après par rapport aux Nevi'im, par rapport aux Psukim de Nevi'im. Il y a ce qu'on appelle le Gan Eden. Quand la personne, elle décède après 120 ans, elle va au Gan Eden. Gan Eden à Tarton, Gan Eden à Lyon. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, du Gan Eden. Alors, il y en a qui ont le Gan Eden, il y en a le NO qui ont le Gehinnom. Mais tout le monde passe par le Gehinnom. L'angoisse. Hein? Même le plus grand sadique qui passe par le Gehinnom. Seulement, vous savez qu'il y a des endroits où l'homme ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Dans l'eau, n'est-ce pas? Ou dans l'espace. Et pourtant, il y a des hommes qui vont dans l'eau et des hommes qui vont dans l'espace. Comment? Ben, soit on a un scaphandre, soit on a un habit de cosmonaute. Donc, on peut vivre. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que tout le monde va dans le Gehinnom, mais celui qui va faire des mitzvot, il va lentement confectionner son scaphandre ou son habit de cosmonaute. Il ira dans le Gehinnom, il fera juste une visite comme ça pour regarder. Simplement, le fait de voir, ça donne la trouille. Mais on peut vivre, mais on ne sentira pas les douleurs. Mais c'est mechaper, ça donne une capara. Pourquoi? Parce que un tzadik baret. Il n'y a pas un juge dans ce monde-ci qui fait que du bien sans fauter. Enfin, pas des grands tzadikim. Nous, malheureusement, enfin, je ne vais pas dire, mais c'est tous les jours, est-ce qu'on prend des paquets de trucs. Donc, on a le Gehinnom pour expier les fautes et pour que la Neshama puisse aller soit dans le Gan Eden et justement par la suite au Olam Haba. Ensuite, on a Triat HaMetim, la résurrection des morts. En fait, on a ce qu'on appelle avant la venue du Mashiach, Biat HaMashiach, Triat HaMetim. Alors, il y a une grande discussion, savoir quand est-ce qu'il va y avoir la Triat HaMetim, c'est la résurrection. Est-ce que c'est au moment de quand il y a un Mashiach, qu'il y aura la résurrection? Il dit oui, au moment de Mashiach, il y aura la résurrection parce qu'il va y avoir la construction du temple. Qui c'est qui va apprendre, savoir comment faire la construction? Donc, il va y avoir des tzadikim comme Aaron, comme Moshe, comme etc. Ils vont venir pour expliquer au peuple et pour expliquer comment il faut faire. Parce que le Mashiach, bien que Mashiach, il a une grandeur qu'on ne peut pas imaginer, mais malgré tout, il ne pourra pas, lui, commencer à donner des cours comme ça aux Kohanim et après là. Donc, il faut que tout de suite que les Kohanim se mettent en place pour pouvoir. Donc, il y aura évidemment des Kohanim qui viendront, qui reviendront pour expliquer. C'est une des choses. Et ensuite, on a la résurrection des morts, de façon générale, de tous nos chers, etc., qui sont partis et qui reviendront. Alors ça, on dit, c'est en combien de temps? 1 000 ans, 2 000 ans, là, moins. Il y a un certain laps de temps qui fait que le temps que ça mette tout est en marche avec le Beth Amikdash, le troisième et le troisième construit, amen. Alors, on a par la suite, plus tard, on a la résurrection des morts. Quand on a la résurrection des morts, etc., on arrive après au but final qui est l'Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça on arrive donc au cours, ça veut dire que c'est un monde, et c'est une grande discussion entre le Rambam, le Ramban, Maïmonide, Nachmanide, le Ramban, il a vécu quelque temps après le Rambam. Le Rambam, lui, était très cartésien, donc on sait sa grandeur au niveau de son étude. Il était tellement grand dans son étude, dans son esprit, qu'il est arrivé à comprendre le Zohar, la Kabbale, alors qu'il l'avait jamais vu. Il a été, pour vous dire. Donc le Ramban, il était versé dedans. C'est vraiment un grand kabbaliste aussi, etc. À part évidemment qu'il connaissait toute la Torah. Donc il y a une grande discussion, à savoir l'Olam Haba, est-ce que c'est un monde qui va être seulement des âmes ou physique? Que le Rambam qui dit ça sera physique, mais on n'aura pas besoin de manger, etc. C'est vrai que ça sera spirituel, mais on aura un corps, etc. Et le Rambam dit non, ça sera spirituel, entièrement, ce sont des âmes, c'est les non-échamotes qui nous font vivre, qui seront là-bas. Donc évidemment, lorsqu'on parle de ça, tout le monde est plus ou moins d'accord à dire que c'est un monde que l'on ne connaît pas. C'est un monde qui, en fait, si vous voulez, et on va expliquer comme ça, c'est que la Gemara, justement, alors, effectivement, vous avez parlé de Pirkei Avot. Pirkei Avot, dans le traité des pères, on commence par Kol Israël Yashem Echenok Noababa. Tout Israël, il a un droit à une partie du monde futur. En fait, la Mishnah ne commence pas par là, elle commence par la notion de transmission. Moshe Kibel Torah Mishnah, Moshe il a reçu la Torah de Sinaï, il a transmis à Yoshua, Yoshua, etc., etc. Donc, il y a une notion de transmission. Mais c'est vrai que juste avant, il y a une petite phrase qui est comme ça, Kol Israël Shem Lo Kol Gamaba. Tout Israël a droit au monde futur. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que Pirkei Avot et pourquoi Dafka Pirkei Avot? C'est intéressant de savoir, c'est que le Pirkei Avot, le traité des pères, c'est le livre par excellence de morale. Tout ce que vous voulez dans la morale, savoir se comporter, etc., il se trouve dans le Pirkei Avot. Ce qui est intéressant, c'est que ces Pirkei Avot, vous l'auriez mis où on va dire, dans l'ordre des Gemarot, dans l'ordre du Talmud. Vous savez que vous avez l'ordre Zraïm, c'est-à-dire tout ce qui est l'ordre de Trouma, Brachot, etc., c'est Gemarot, etc. On a l'ordre de Moed, d'accord? Moed, c'est tout ce qui est Shabbat, Taanit, etc., Betzar, bon, ce sont des Gemarot, etc. On a tout ce qui est Nachim, de vote, etc. Ce sont des Gemarot, Talmud. Ensuite, on a Nézikim, d'accord? C'est tout ce qui est Baba Batra, Baba Kama, etc. Sanhedrin. Et Pirkei Avot, où est-ce qu'on va le mettre? C'est une Gemara, hein?
Au début.
Au début, à la fin. Marloket. Pourquoi au début, pourquoi à la fin? Il a fait. C'est vrai que logiquement, elle a raison, ce serait la base. Pourquoi? Parce que la Torah ne peut être acquise, comme dit le Pirkei Avot, que si on a là-bas, si on a les midot, si on a les vertus. D'accord? Il peut avoir un chapeau, une barbe, etc., et se comporter comme un goujat. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner là-dedans? Donc, évidemment, la Torah, avant d'être c'est d'acquérir déjà les bases de la morale, pour après pouvoir commencer à étudier. Alors, il devrait être au début. Vous, vous dites pourquoi à la fin?
En fait, on apprend tout, et après, on a nos pères qui nous donnent tout ce qu'on doit retenir.
Mais si c'est de la morale, pourquoi on le mettrait à la fin?
Parce qu'on apprend d'abord, on vit, et puis après.
D'abord, on va apprendre ce que c'est que les brachot, on va apprendre ce que c'est que le Shabbat, etc.
Par rapport à la vie, ce qu'il faut vivre, en même temps qu'on fait ce qu'on doit faire dans la Torah,
Aussi à la fin?
au début.
Au début?
Juste avoir les midot, après, c'est plus logique.
Alors, on va faire comme si, comme ça, comme dirait l'Israélien. Ah, des Israéliens, des Français, comme si, comme ça.
Au
Non,
milieu,
ils n'ont
alors,
qu'un
le
seul
mot
mot.
milieu.
Alors, voilà, on va faire. Alors, presque au milieu. En fait, elle a presque raison, c'est pratiquement à la fin. C'est dans le Seder Nézikim. C'est dans l'ordre des dommages et intérêts. L'ordre des Nézikim, c'est Baba Thomas qui s'occupe de tout ce qui est les problèmes de dommages et intérêts. Et. Ils le mettent où, cette Misha là-bas? Ils le mettent justement après Sanhedrin. En fait, il y a Sanhedrin, il y a Makot. Si vous l'avez là, vous avez les Mishayon. Mais les Gemarot sont pas mis dans cet ordre-là. Vous avez Makot, vous avez Eduyot, et ensuite vous avez Avot. Mais si vous voyez, en principe, c'est juste après Sanhedrin. Et Sanhedrin, en fait, s'est collé avec Makot et il y a eu Avot aussi. Mais le dernier Pérek de Sanhedrin, Sanhedrin, c'est quoi? C'était la grande assemblée, les attachants Laura, le Beth Amikdash, grande assemblée où il y avait 70 sages, dans lequel il y avait des prophètes aussi à l'époque, c'est les derniers prophètes, etc., dans lequel, lorsqu'il devait y avoir une loi ou etc., ça devait passer devant tous les sages, et chacun imaginait, connaissait évidemment la Torah, hein, et chacun venait avec sa partie. Quand on devait juger tes choses, on dit oui, mais dans cette Gemara, Rabbi Meir, il a dit comme ça, alors oui, mais Rabbi Meir, mais dans l'autre Gemara, là-bas, il dit le contraire, parce qu'il a ta 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 ta, jusqu'à ce qu'après on arrive à scinder tout ça et à venir au émettre la vérité et dire voilà, la loi finalement, elle sera comme ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, une des choses, c'est que le Sanhédrin, jamais, il a mis à mort une personne. Et la Gemara dit comme ça que si elle avait mis à mort une personne, même deux personnes, même en l'espace de plusieurs années, elle serait considérée comme une assemblée cruelle. Vous imaginez? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fallait qu'il y avait 72. S'il y a 72 qui décrètent que la personne doit mourir, c'est pas possible. Donc le jugement est annulé. Pourquoi? C'est extraordinaire parce que la Gemara a dit, c'est pas possible que dans les 72, il n'y a pas une seule qui a trouvé qu'il y a un cas favorable chez l'accusé. Donc ils annulent. Par contre, s'il y a le 71, c'est-à-dire que le 72, celui qui va dire la dernière loi, s'il dit, il est bien, et que les 71 ont dit qu'il n'est pas bien, il va mourir. Parce que finalement, ils ne sont pas tous à avoir dit qu'il est bien. Tous ont dit sauf un. On attend le dernier. Si tu dis qu'il est bien, il meurt. Si tu dis qu'il n'est pas bien, il ne meurt pas. Parce que ce n'est pas possible. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit. La Mishnah dans Chélek, le premier, c'est d'ailleurs dans le chapitre 10, la Mishnah dit comme ça. Et en fait, c'est là où on retrouve ce Kol Israël. Je vous lis juste. Kol Israël, Yesh Lahem Chélek l'Olam Haba. Tout Israël donc a droit à une part du monde futur. Comme il est dit, Va Amecha Kulam Tzadikim, et ton peuple, Kulam Tzadikim, sont tous des Tzadikim, l'Olam, ils pourront tous, Irshu Aretz, acquérir la terre. D'accord? Netsa Mata et Masse Yedei Lipaer. Alors, par rapport à tout ça, tous les actes qu'ils ont fait, etc. Bon. Par rapport à ce bon seulement. Velu Shen Aem Chelok. Nous, on lit toujours ça. Mais c'est vrai qu'il y a la suite. Nous, qu'on fait les pires kavod et tout ça. Tout Israël. Ouais, c'est génial. J'ai mon droit à faire. Mais attends, tu veux pas Shabbat? Ouais, mais t'as vu, tout le monde a Israël. Hein? Alors, moi, je m'en fiche. Non. C'est écrit à la fin. Hein? C'est écrit dans la caméra. Et voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Et là, il y a une énumération. En fait, il y a trois choses. Il y a trois choses, et Rabbi Akiva, il va rajouter une chose. Et c'est intéressant de. On va revenir sur Rabbi Akiva, parce que vous allez voir que, alors là, Rabbi Akiva, pourtant, Rabbi Akiva, lui, il fait le shalom, il fait machin, et chaque chose, et là, il vient tous nous détruire. Donc, nous, on vient. On dit, on a tous droit au monde futur. Maintenant, je vais revenir sur ces trois choses-là dans lesquelles on n'a pas le monde futur. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? On a droit au monde futur. Hein? Non, après il dit, après, ve'elo, et voici ceux qui n'ont pas le droit. Hein?
Non,
Non, non, c'est moi qui ai dit par rapport à ce que veut dire Rabbi Akiva, est-ce qu'on est, on fait partie de tous ceux qui ont droit au monde futur. D'accord? Mais, c'est vrai. Et voici ceux qui n'ont pas le droit au monde futur. Quand on va décrire ça, vous allez dire, oulala, attends, moi je ne fais même pas partie de ce groupe-là. Et je pense qu'on est tous, on va dire, mais est-ce qu'on fait vraiment partie de ce groupe-là? Alors, on se pose la question, effectivement. Alors, on va voir, on va voir. On se calme. Alors, alors, il faut comprendre encore une fois, c'est que nous, on vit, matériel, touche, on a cinq sens. On sent, on écoute, on voit, etc. Donc, on a ces sens-là, ce sont des sens matériels. Lorsqu'on parle du monde futur, lorsqu'on parle de Gan Eden, etc., ça fait partie d'un autre sens, un autre sens qu'on ne connaît pas, le sens spirituel, dans lequel tous ces sens-là qui sont mathématiques, je veux dire qu'on sent, on peut, etc., qu'on... ces sens-là n'existent pas. Est-ce qu'ils vont exister? Est-ce que moi, dans le monde futur, je vais avoir la notion, je vais sentir bon, ça va sentir bon, ça va être bon, etc. Il n'y a pas de notion de manger, il n'y a pas de notion de boire, il n'y a pas de notion. Et alors, je ne vais rien voir. Et là, qu'est-ce que... Oh, t'es qui? Encore une fois, je vous pose une question. Lorsqu'il y a deux personnes qui sont ici, l'un et nous, il y en a un qui est mort et il y en a un qui est couché, qui n'est pas mort. Les deux sont allongés. Il y en a un, vous lui donnez une claque, il va dire « Aïe !» Il y en a un, vous lui donnez une claque, il ne dira rien. Alors, qu'est-ce qui... Les deux sont les mêmes. Ce sont deux corps avec des oreilles, des yeux, une bouche, un nez, etc. Ils ont tous les facteurs pour avoir des sens. Mais qu'est-ce qui différencie celui qui est allongé qui est mort et celui qui est... Ah oui, bah parce qu'il est mort. D'accord, mais alors quoi? C'est quoi? C'est le sang dans l'être humain qui permet d'entendre... On sait, c'est une notion de mort clinique. Vous pouvez le frapper, vous pouvez le voir, il ne sentira rien. Et... Hein? Alors, il exprime. Vous savez, ces personnes qui sont revenues à la vie, ben, elles ont exprimé qu'elles ont vu leur corps, d'accord? Et qu'on le faisait, mais elles ne sentaient rien. Elles voyaient, mais elles n'avaient pas la douleur parce que elles se disent, mais pourquoi il me frappe? Mais je ne sens pas. C'est-à-dire que la Neshama... Et pourtant, ce corps-là, il est vivant encore, parce qu'il y a le sang qui circule, il y a le cœur encore, mais il n'est pas... Enfin, le cœur, c'est cérébral. Donc, c'est le Neshama est en dehors de ce corps-là, donc il n'y a plus les sens. Les sens ne sont plus là. Je me dis, mais alors comment il voit? Il n'a pas les yeux. C'est quoi ce truc qu'il voit? La caméra? C'est le Neshama-là, la capacité de sentir, de voir, etc., mais c'est au niveau spirituel. On n'est pas capable de l'expliquer. Alors, explique à quelqu'un qui est revenu à la vie, est-ce que tu as senti quelque chose, est-ce que tu as vu quelque chose? Bon, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a deux mondes. Il y a le monde du vivant ici et le monde qui est de l'au-delà, qui est la Neshama. Lorsqu'on dit « Kol Yisrael Yeshlem Chelek Lolam Baba », ça veut dire qu'on va passer de ce stade des cinq sens au stade qui est spirituel. Pour arriver du stade qui est des cinq sens au stade spirituel, c'est ça tout le challenge. Tout ce qu'on fait ici, on est en train de donner à manger, entre guillemets, à la Neshama, qui va pouvoir continuer là-bas. Et c'est ça, Yeshem Chelek Lolam Haba. Qu'on dit, tout Israël droit au monde futur, en fait, le monde futur, ça s'appelle le juif.
Il y a le futur et il y a le futur.
Voilà, retour vers le futur. Mais ça, c'est ça. Mais ça veut dire encore une fois, c'est que si vous voulez, la réalité du monde futur ne peut être héritée. C'est-à-dire, je n'hérite pas du monde futur. Je suis le monde futur. Donc, c'est pour ça qu'en Israël, tout Israël a cette potentialité d'être là. Pourquoi? Parce que tu es une Neshama. Parce que tout est fait pour, justement, pour arriver au monde futur. Ah, alors c'est quoi? Veillez chez Elem, Chelek, Lolam Haba.
Mais celui qui fait rien, il nourrit pas sa Neshama. Donc, comment elle peut accéder au Lolam Haba?
C'est pour ça que je vous ai dit. C'est que cette Neshama-là, cette âme-là, d'accord, Hachem, il lui a donné un corps, c'est Neshama, le bébé, il vient, etc. Et là, c'est Neshama, et c'est Neshama, elle va grandir avec tous les actes qu'il va faire. il va s'imbiber de soit de mitzvot, et donc il est mekayem, il fait exister cette neshama, soit justement il fait éteindre cette neshama. Et donc, c'est pour ça que lorsque la Gemara, elle vient dire Kol Yisrael Yeshem Echoma, parce que on nous a donné un ticket, ou on nous a donné un truc dans lequel, voilà, tu commences avec 100 000 euros dans la banque. Mais qu'est-ce qu'il fait quand ceux qui ont gagné au loto, n'est-ce pas, ils deviennent des fois pires que ce qui était avant? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer l'argent. Vas-y, on dépense, vas-y, on fait. Et puis après 2 ans, 3 ans, alors qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai rien, alors là, je suis en train de faire la tzedaka. Mais quoi, c'est pas possible, tu as gagné 1 million. Dépenser des croissants, des machins, des trucs, je sais pas quoi. Ouais, En tous les cas, c'est la même chose pour un neshama. C'est-à-dire qu'on nous a donné un potentiel. Ce potentiel-là, il faut travailler. Et donc c'est ce Kol Israël. Et quand je le travaille, alors yesh li chelek. Alors j'ai cette partie du monde futur. Maintenant, en fonction du travail, j'ai la première place, VIP, ou j'ai. Je suis là, tu passes pas ces jumelles, je vois pas là, qu'est-ce qui se passe.
Alors, c'est qui va aller là et c'est qui va aller là?
Oh, vous pouvez me donner la réponse.
Celui qui fait rien. Rien, ça veut dire quoi, arriver?
Alors, attendez, on va arriver. Donc, ça veut dire, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on vient au monde, avec un tahlit, avec un but. Le problème qu'on voit ici, partout dehors, c'est que les gens ne savent pas, il n'y a pas de but. Qu'est-ce qu'on va faire? On travaille, métro, ce qu'on appelle boulot dodo, c'est ça le but. Comment Israël profite? Comment Israël a pu transcender tout ce qu'elle a eu? C'est-à-dire que ce que je parlais à midi, c'est-à-dire que après presque 3000 ans d'exil, vous connaissez un peuple qui a réussi encore à être comme ce soir, on est encore avec des chiouris, avec la Shoah, avec l'Inquisition, avec les pogroms, avec tout ça. On est là, ouais, on retourne en Eretz Israël, on fait Shabbat, les Yeshivot, dès qu'il y en a qui mettent les Shabbat, Shabbat! Mais le Shabbat, attends, tout ce qu'on a eu dans le monde, laisse tomber, on est comme les autres, ça y est, on a saoulé. Non, on se bat pour ça. Mais comment tu peux te battre? On nous a tellement frappé dessus, oublie, comme ça on nous casse plus la tête. Non, on ne peut pas. Parce que Yesh la nochelek, parce que notre Neshama nous appelle, on a un but. On vient au monde, on sait qu'on a un but. C'est quoi? C'est d'arriver là-bas. Là-bas, je ne connais même pas, je ne sais même pas ce que c'est. Nachon, même les prophètes ont dit, même les prophètes n'ont pas été capables de prophétiser, de savoir ce que c'est que le monde futur, parce que personne n'a été, parce que c'est le but final. Ils ont prophétisé ce qui va dans le Gan Eden, ce qu'il y a le Mashiach, ce qu'il y a le Tréat Hamitin, etc. Mais au Lamaba, non, c'est pas. Alors, qui m'a dit que c'est vrai? Ah, qui a dit que c'est vrai? Ça fait partie de la foi, que si tu crois que c'est pas vrai, tu remets en question la Torah, donc tu n'auras pas le monde futur. Bah, c'est vicieux, c'est... c'est comme ça. Mais alors quoi, c'est... Bah, tu as... Moi, comment on dit, chéti-chéti, tu as moitié-moitié. Tu peux croire comme tu peux pas croire. Si tu crois pas, bah, tu l'as pas, t'as arrêté. Non, maman, et tout ça. Et toute ta vie, elle sera dans le sens de finalement à quoi ça sert. Et si je l'ai, enfin, je dis j'ai la moitié, bah, si je l'ai pas après, bon, mais c'est pas grave, mais au moins je suis parti avec cette notion qu'il y a un but. Je vais donner une anecdote avant, après. Il y avait dans les camps, je ne sais plus lequel, si c'est Auschwitz ou l'autre, il y avait un psychologue, enfin il étudiait sur les gens, et en même temps il était journaliste. Et il a écrit des petits trucs de ce qu'il pouvait écrire, et il a vu que ceux qui ont été capables de résister dans les camps, il faut bien comprendre, on n'arrive même pas à comprendre, mais il faut essayer d'imaginer de ce qu'ont pu souffrir et subir les Juifs. Si ce n'est pas la faim, la soif, c'est les atrocités. Les atrocités psychologiques qui étaient les pires. Donc, comment arriver à rester un Ben Adam, un homme, avec sa définition d'homme? C'est ce qu'ont voulu effacer, Yimbar Shemar, les nazis, Hitler et Marchemont. Parce que nous représentons Pirkei Avot, nous représentons la morale. Il faut effacer cette morale, nous on fait ce qu'on veut, nous on est peuple athée, athéiste, contre tout. Et donc, il dit comme ça, les seuls qu'on peut résister, c'est ceux qui ont mis un but dans leur vie. Il y avait celui qui devait se marier, et l'été, qu'on l'a emprisonné, on l'a mis, etc. Et il m'a dit, mais de toute façon, dès que je sors, je marie jusqu'à ma femme et elle m'attend. Malgré toutes les douleurs, tout ça, il a réussi à résister. C'est pas un juif, pas forcément un juif. Il y a celui qui devait voir ses parents, peu importe, c'est-à-dire qu'il espérait parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'espoir. Il y a cette notion. Et il y a le juif, religieux, on va dire comme ça, qui lui dit tout ça, c'est des makos, c'est des coups, mais Mashiach, il va arriver, il va nous délivrer. Il y a une notion de Mashiach, il y a une notion d'un terme à tout ça. Et après, il y a Olam Haba. Mais déjà, il y a Mashiach. Ils ont dit, ces trois personnes-là, psychologiquement, ils ont réussi à s'en sortir. Parce qu'ils avaient un but. Imaginez que vous venez dans le monde, vous faites des mitzvot, mais quel but, à quoi sert tout ça? On vous dit, sachez que vous avez un salaire. Le salaire, le plus grand salaire qui est, c'est la vie éternelle. C'est celle qu'on a perdue lors d'Adam Harishon, et c'est celle que vous aurez, mais attaché à Mashiach et ce qu'on appelle donc l'Olam Haba, monde éternel. Donc vous imaginez quoi je serai avec ma femme éternellement? Non, mais non, mais ça. Ah, de la belle-mère. Bon, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette vie éternelle, c'est tout le salaire que je vais faire moi pendant toute cette vie-là. Et arriver à avoir cette vie éternelle. Donc, ça me donne quand même du bon au cœur, parce que plus que ça me donne l'ambition, ça me donne envie de. Parce que si moi, je vais travailler, une personne, elle va travailler, elle sait qu'avec tous les malheurs qu'il y a, et toutes les maladies, etc., quoi, et tu peux dire, et quoi, je vais mourir, et quoi, et ma femme va se marier avec un autre, c'est lui qui va arrêter tout ce que j'ai mis en place. Et c'est tout ça que j'ai fait, entre guillemets. Quoi, je vais travailler et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est pour qu'après, j'ai les impôts, j'ai les machins, j'ai ceci, cela, pour qu'après. Donc c'est sûr que la motivation, elle est tout autre. Alors, moi, ça veut dire quoi? Que maintenant, quand je vais aller travailler, j'ai une motivation d'aller parce que je leur m'abats. Pourquoi? En allant faire, je suis avocat, alors je vais aller plaider, etc. Donc j'allais avoir mon lamaba, j'ai un but. Non, mais tu sais que quand tu travailles, tu fais une mitzvah. Avant, quelle mitzvah? Mais tu es ta femme, tu as des enfants, Parnassa, etc. Donc, ça fait partie du misère. Donc, vois autrement la chose. Non pas tu vois ça en tant que travail, mais tu vois ça en tant que misère. Tu peux aller jeter la poubelle. Jeter la poubelle, tu vois. C'est une misère. Quoi, misère pour jeter une poubelle, c'est sale, hein. Mais c'est une misère. Tu es ta femme. Ou la femme, elle est son mari, peu importe. Mais ça fait partie. Si je vois que chaque acte que je fais, c'est en tant que mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, qu'est-ce qu'il y a après la mitzvah? Il y a un salaire. Mais alors, il est où le salaire? Alors, ça fait plein de mitzvahs que j'en ai fait. Le salaire, t'inquiète pas, Began Eden. Ah, ça, je me connais, Began Eden. Hein? Pas? Alors, sachez que la Gemara a dit que les mitzvahs, ce sera rien de la carte. C'est-à-dire que les mitzvahs qu'il y a, ce n'est pas pour avoir un salaire dans ce monde-ci. Il y a certaines mitzvahs qu'on a un salaire dans ce monde-ci. Lesquels? Enfin, oui, mais. Il a fait? Ça, d'accord, respecter ses parents. C'est écrit les mains, ni robot, enfin, je vous augmenterai la vie. Il y a aussi une autre, je vois Raquel, qui est la notion de faire partir la mère et de prendre le petit poussin. C'est une misère, ça a l'air étonnant, mais celle-là, bah, c'est écrit comme pour les parents. Et je multiplierai ta vie. Oui, c'est bon. Après, si vous voulez, un jour, on le fera. On ne va pas rentrer là-dedans, mais.
Mon fils, il a dit, forcément que je le fasse, mais je ne comprends pas.
Alors, sachez que l'ordre, ces notions de cruauté, c'est juste pour montrer, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup plus, mais l'idée, c'est de faire partir la mère, de prendre le poussin, bah, je ne fais rien, si c'est pour ne pas, et le remettre. Bah, maintenant, je vais faire un œuf au plat ou un truc. Non, je remets. J'ai fait la mitzvah, j'ai pris, Raïm, je remets l'œuf. L'œuf, d'accord? Ou le poussin, à la rigueur. D'accord? Et la mère revient, il n'y a rien. Mais c'est en fait pour dire qu'on ne peut pas s'approprier la nature comme on veut. Il y a aussi une. Mais c'est vrai qu'après, je vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi ça? C'est comparé au commandement de tu en auras ton père et ta mère et tu auras la vie longue. Un poussin entre ça, je préfère faire le poussin toute ma vie qu'avoir le commandement d'honorer les parents, c'est très difficile. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tous les cas, effectivement, ça c'est écrit, mais fourrage. Maintenant, c'est vrai qu'on a un salaire aussi dans ce monde-ci, d'accord? Comme c'est écrit au début dans les Tfilotes, dans lesquels on a, par exemple, Bikoucholim, par exemple, etc. Il y a plusieurs au début de la Tfila, dans lesquels on a dit, il y a 10 choses, dans lesquelles c'est écrit, on l'a basé, et Keren Karimet, le Olamaba. Et le dividende dans le monde futur. C'est-à-dire que la majorité du salaire sera dans le monde futur. Connaissez tous, je crois que c'était Rabbi Tarfon, ils n'avaient pas les moyens. Il a prié pour avoir la parnassa parce que sa femme se plaignait, etc. Et finalement, il lui a envoyé un pied, comme ça, en or, machin, un truc comme ça. Il est venu, il était content, il a dit, waouh, ce pied-là, on va le vendre très cher, on va voir tranquille. Sa femme dit, d'où vient ce pied-là? Tu l'as piqué? Il m'a rasé choulem. Je vais le piquer. Il dit, mais d'où il vient? Il dit, j'ai prié, Hachem me l'a envoyé. Il dit, mais t'es malade? C'est notre table dans le monde futur. Maintenant, elle a 3 pieds, elle ne va pas tenir. Tu la remets! Donc, il a dit, Ribbono Shel Olam, reprend le pied. C'est-à-dire que quand on a un salaire, qu'on a quelque chose, quelque chose qu'il nous donne, on demande que ce soit matana trinam, que ce soit un cadeau gratuit, pas qu'il nous l'enlève du monde futur. Donc, on voit qu'on accumule des points pour le monde futur. Vous avez envie de prier? Non, mais donne-moi un point. Mais tu l'enlèves là-bas. Là-bas, c'est éternel. C'est-à-dire que tu as 20 points, c'est 20 points éternels. Ici, c'est 20 points, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Laisse tomber, je préfère là-bas, 20 points éternels. Donc, la Gemara, maintenant, je reviens sur la Mishnah. D'accord? La Mishnah nous dit, tout Israël a droit au monde futur. Maintenant, on commence à comprendre que, finalement, il y a cette notion de but final qui est cette âme-là, comme on a dit, elle est aspirée vers le monde futur et donc, nous, on doit travailler. Maintenant, c'est-à-dire, tout le monde, tout le monde. Alors, on va voir justement dans le texte que même les non-juifs ont droit au monde futur. Le Rambam dit, pas n'importe qui. Chassidei Olam. Les tzadikim. Des mondes futurs. Enfin, des nations. Alors, le Mishnah, juste, je suis désolé, j'ai pas fait des vœux. Alors, il dit comme ça, Velu Shenahem Chelekolomai, voilà ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Il ne me reste plus qu'un quart d'heure, hein, j'ai des feuilles. Voilà pour vous dire, bon. Voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. À Omer, celui qui dit Entriatamitimina Torah. Moi, je ne crois pas à la résurrection des morts. N'importe quoi, ça, on va dans les films, là, comme ça, il n'existe pas. Attends, je vais voir à Moshe Rabbeinu comme ça. Bon. Alors, ensuite, En Torah mina shamayim. La Torah ne vient pas du ciel. Quand on explique que, regarde, tu sais. Le salaire, le monde futur. Ah, attends, qui c'est qui l'a écrit? C'est Moshe, il est venu, il s'est caché derrière le truc, le buisson, il est venu avec la Torah. Ceux-là, ou ceux qui viennent, ils expliquent. Chaque fois, ils veulent une explication. C'est quoi? Non, mais attends, d'accord, mais la science, qu'est-ce qu'elle dit avec ça? C'est quoi? Et le monde moderne, qu'est-ce qu'il dit parce que la Torah n'a pas le droit? Ceux qui remettent en question que la Torah mine à Shamaï, désolé, Mouxé, c'est Mouxé. C'est interdit de prendre un verre qui ne sert à rien, je mets comme ça. Ah, ça c'est toi qui inventes, je sais qu'il y a ceux qui disent comme ça. Ah, c'est un verre qui invente. Pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Ah si, mais c'est les Chachamim qui ont dit. Chachamim, chacun va se dire son truc. Non. Parce que les Chachamim font partie de la Torah. Ce qu'ils disent, c'est écrit dans la Torah que tu devrais avoir respecté les Chachamim. Donc toi, tu remets en question les Chachamim. Donc, tu remets en question la Torah, donc tu remets en question donc, le fondement. Et Apikos, Apicurus, on va voir ce que c'est, on va voir les définitions. Alors, si vous voulez qu'on voit les définitions directement dès maintenant, alors regardez la feuille numéro. Alors, je crois que c'est numéro 6. Vous voyez, un Torah min ha-shamayim. Il n'y a pas un Torah min ha-shamayim. Elle est comment la feuille? Non, non, c'est pas ça. Non. Non, alors la 5. Non, c'est celle-là. Bon. Bon, alors laissez tomber. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Je n'ai pas pris les. Non, moi j'ai fait. Je t'ai donné tout. Est-ce que vous avez une? Bon, alors vous savez, non, je ne l'ai pas fait, mais je... non, c'est pas grave, laissez. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, on ne va pas avoir le temps, mais je vais quand même le dire. L'apicurus, non, bah après, on va voir la suite. L'apicurus, c'est quoi l'apicurus? C'est l'apostat. En français, ça s'appelle l'apostat. Ou l'épicurien. L'épicurien. Chez Mekel Birbon la Torah, il. Dénigre, ouais, même un peu moins, c'est pas vrai. Dénigre et Mekel, c'est-à-dire qu'il. C'est pas qu'il allège. Alors, dénigrer, c'est vraiment. Je veux pas, c'est même dire. Oh, de toute façon, les rabbinimes. Alors, ça peut peut-être dénigrer, mais des fois, c'est même un peu moins. Bon, c'est qui sera. Bon, c'est qui sera. Alors, peut-être c'est dénigrer, oui. Kigan, chez Mebazé, Chavero, Befnet, Amichamam. Ou, là, il dit carrément, ça c'est le Tiferet Israël, il. Voilà, il rabaisse, il, effectivement, il méprise un peu son ami, il rabaisse son ami devant un grand la Torah ou devant un Tamil Khamen, devant un Rav. Ça, c'est pour qui ça? On se trouve toujours devant un Rav? Non, c'est parfois deux copains à la Yeshiva, mais tu n'as rien compris, etc., devant un Rav. Ça s'appelle la picorousse, d'après lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir le type avec les boucles d'oreilles, tout ça, et lui, c'est là. Même à l'Eshiva, il peut devenir comme ça. Et celui-là, un lochel et clon la maba. Shelomana barre, achi, smerle, etc., etc. Rabbi Yochanan, parce que. Bon, après. Je laisse maintenant, voilà. C'est cette idée-là de. Effectivement, on va prendre la définition de madame. Dénigrer la Torah. C'est pas que je remets en question la Torah. La Torah, Mirchan et tout ça. Mais les rabbinim, celui-là, qu'est-ce qu'il est, il est pour qui? Quelqu'un, il faut bien comprendre. Quelqu'un qui étudie la Torah aujourd'hui. Par exemple, hein, tout le temps, mais aujourd'hui, il faut savoir les conditions dans lesquelles il étudie. Il gagne un grouche, il gagne 1000 euros, 1500 euros à tout casser. Il pourrait tous faire des études, et faire des trucs, et gagner 2000, 3000 minimum. Il se contente de peu, mais étudie à tort. Alors, on n'a pas besoin d'être le gars Rav Kanievski, Zatzal, Rav Yosef, ou tout ça, pour dire voilà, lui on les respecte, les autres, qu'est-ce qu'on a? Tout celui qui étudie la Torah, il y a un devoir de respect. À ce qu'il représente en lui-même. Il aurait pu faire autre chose, de médecin, tout ça. Donc, si c'est sacrifié à étudier la Torah, je ne dis pas ceux qui chauffent les bonbons, après. Je parle de ceux qui vraiment sont là en train d'étudier la Torah. C'est un sacrifice. Eux, c'est eux qui vont transmettre. C'est comme quelqu'un m'a dit, je ne comprends pas, vous êtes tous à étudier la Torah. Je lui ai dit, mais la vérité, vous avez raison, on va tous travailler comme vous. Mais le jour où vous aurez besoin d'un kaddish, vous dire, mais est-ce qu'on a le droit? Moi, je vais aussi poser la question de la bêtise, je ne sais pas, toi, tu connais? Non, viens, on va demander à l'autre. Ben, l'autre, non, il n'a pas été yeshiva aussi, il a fait médecine. Ah, et lui aussi, tout le monde a fait. Bon, ben, alors, il n'y a personne. Qu'est-ce qui va se passer à la Torah? Il n'y a plus de transmission. Donc, on est bien content quand on a un problème. Va demander au Rav. Et puis après, effectivement, c'est comme ça que. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant arrive Rabbi Akiva. Il dit comme ça, Omer, Afakore besfarim chitsonim, même pour ceux qui lisent des livres étrangers à la Torah, va leur chèche la maca, et qui fait des incantations, etc. On va marabout. Alors, tout ça, voilà, il dit cela, ou alors il dit, Kol amachala chasim imsrem, par exemple, il dit, ah, tu sais quoi, dans la Torah, on trouve des guérisons. On peut utiliser comme ça. Si tu utilises, tu sais, la Torah dit comme ça, tu utilises comme ça. Il y a certaines choses que les Chachamim ont permis. Ce qui a été transmis par les Chachamim, oui, on peut. Mais pas à nous de dire, tu sais, il y a une ségoula, j'ai entendu, parce que là, c'est la mode des ségoulas, je vois à chaque fois envoyer, ouais, qui se lève, c'est se lever tout le matin. Voilà. Je sais pas, plein de ségoulottes, oui, tu dis, t'es dit, tout ça. Bon, c'est bien, mais dire, voilà, moi, je vais étudier la Torah pour, mais à côté, je fais rien du tout. L'essentiel, c'est la Torah, c'est au lieu d'aller voir docteur Intel, je vais voir docteur Torah. Ah, trois fois Tehillim, ça me permet d'avoir un. Qui a dit on n'utilise pas la Torah pour ça? Les Chachami nous ont transmis, effectivement, que certaines choses, on peut. D'accord? Alpi Asod, etc. Alpi Kabbalah, Soumoua Kabbalah, Soumoua Kabbalah. Alors on le fait. Mais pas à chaque chose, on va commencer à inventer, ou en tout cas à dire, il paraît que, et machin, je vois des tas de trucs. S'il n'y a pas une référence de la Torah.
Mais quand on passe le bac français, par exemple, on étudie les livres français, enfin, les philosophes, c'est à chaque fois.
Il n'y a que le bac français.
Quoi,
il n'y a que le bac français. Et ceux qui sont avec le portable, n'est-ce pas? Ils sont là. Attendez, je vais essayer de continuer. Celui qui est sur le portable, ils sont en train de passer là. Bon, alors tu achètes quelque chose, ouais. Une heure après, alors tu l'as acheté. Non, attends, je suis en train de voir. Ça fait une heure qu'il est passé en train de regarder ça. Et alors, c'est pas regarder des choses étrangères à la Torah. Alors voilà. La question est de savoir. Pardon, posez la question. Est-ce que lorsque Rabbi Akiva, il dit, celui qui lit des livres étrangers, est-ce que le problème, c'est de lire les livres étrangers parce que ça va m'amener à croire autre chose? Ou c'est une perte de temps? Divertissement. Pour ça, vous avez un paquet de feuilles. Mais alors, on a... Entre-temps, un gros, j'aime le bébé, il dort. Alors, déjà, la question de savoir, c'est pourquoi ces trois fautes-là? Pourquoi ces trois fautes-là? Est-ce qu'il y a d'autres fautes? Est-ce qu'il y a d'autres fautes? Ça, c'est la dernière feuille. La 6 et la 7. Le listing. Est-ce qu'il y a d'autres fautes? Alors, d'après la Gemara, il y a trois fautes. Et Rabbi Akiva, il dit, Sfarim Chitsoni, des livres étrangers. Mais finalement, pourquoi ces trois fautes-là? Pourquoi il n'y a pas d'autres? Pourquoi la Gemara n'a pas dit, je ne sais pas, une des qu'on verra, la médisance. Ça fait partie.
Et celui qui fait pas Shabbat?
On verra. Est-ce que ça fait partie? Non, pourquoi? Alors, le Dechachami, il nous répond, il nous dit comme ça. Alors, j'essaie de voir, je ne m'en rappelle plus. Oui, c'est le Sefer Ikarim. Mahamar Ikarim, ou Bala Ikarim. Il nous dit comme ça, c'est parce que dans Triat Amitim, dans les trois qu'on a dit, d'accord, la résurrection des morts, la Torah qui n'est pas des cieux, ou Apikourous, les trois déracinent le fondement même de la Torah. Comme ça, il explique. Ces trois choses-là font que la Torah n'existe pas. Triat Amitim, si je ne crois pas à Triat Amitim, parce que finalement c'est le but. Alors pourquoi tu ne dis pas, il n'y a pas le Olam Haba? Mais Triat Amitim, c'est juste avant le Olam Haba. Le Triat Amitim, c'est de comprendre que les gens vont ressusciter, c'est-à-dire que finalement, il y a eu ce qu'on appelle Sechar Ve'Onesh, il y a un salaire et punition, que maintenant, ceux qui ont été caparas, qui ont été pardonnés, etc., Triat Amitim, on pourra se lever pour avoir le Olam Haba. Tu penses pas ça, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de salaire en neige. Il n'y a plus de salaire et de punition. Donc s'il n'y a plus de salaire en punition, moi je fais une mitzvah, c'est pour rien. Donc la Torah, on déracine tout. Même chose, s'il n'y a pas la Torah Mina Shamaï, c'est-à-dire que chaque fois, moi je viens avec, ouais, qui a dit? Est-ce que la science parle? Donc ça veut dire chaque fois, je remets en question les fondements de la Torah. Donc après, je ne fais plus. Donc on déracine la Torah. Et l'autre chose, Apikourous, évidemment, Apikourous, c'est plus que rien, c'est de dénigrer la Torah, dénigrer les rabbanim. C'est-à-dire que, oui, la Torah, elle vient du ciel. Oui, il y a Triat Amitim, ça, j'y crois. Pourquoi lui, il est mieux que moi? Moi, sans faire Shabbat, je peux aussi. Triat Amitim. Qui t'a dit que? Mais c'est écrit dans la Torah. Oui, d'accord, mais toi, t'es... Malheureusement, on voit... Alors, aujourd'hui, je ne vais pas dire, parce que je ne vais pas être accusateur, il y a un problème aujourd'hui d'ignorance. Donc le problème d'ignorance fait qu'on devient, on se révolte. On se révolte en fait par rapport à l'ignorance qu'on a. Et nous, qui sommes dans la Torah, nous avons l'obligation, pas seulement d'aller mettre les finis, etc., mais l'obligation d'enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire, comment faire, etc. Ce qui sont par les séminaires de Arachim, etc., ces grands séminaires-là, où on montre que, justement, la Torah vient du ciel, etc., mais lentement, il y a une approche qui fait que lentement, la personne va adhérer à ça, et finalement, elle va, par la suite, faire les mitzvot. Donc, nous, on a cette mitzvah-là. Donc, de dire aujourd'hui, ils sont épicoureux, c'est un problème d'ignorance. L'épicoureux, c'est celui qui sait et qui va aller aussi contre ça. Maintenant, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais on a tous Internet, donc tout le monde peut être capable de savoir. C'est vrai que là, ça devient problématique. Parce qu'on peut savoir et que maintenant, on vient contre ça. Donc, ça, toutes ces trois choses-là, maintenant, le Sefer Chitsonim, les livres qui sont à l'extérieur, enfin qui... En quoi il y a une notion de déraciner la Torah? Alors, ça c'est intéressant, j'ai cherché des commentaires, je ne veux pas rentrer là parce que le temps il file maintenant, on a plus, ça fait déjà presque une heure, donc je ne peux plus, il faut que je résume, je conclue, mais à la rigueur on peut continuer d'autres fois, mais... Il y a un commentaire qui vient, il nous dit comme ça, oui. Qui vient, il nous dit, c'est quoi ces six frères Ritsonim? Alors, j'ai rapporté ici, il y a le Rambam, il y a le Rabbi Akiva, Rabbi Odiawa Benoît, dans la Mishnah. Enfin, bon. Déjà, le Rambam, il nous dit comme ça, ou Sfarim Ritsonim, les livres qui sont étrangers, qui sont Amrou, Sifré Minim. Ce sont des livres qui sont des minimes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas évidemment juifs ou qui viennent et qui ont des conceptions autres que la Torah. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il rapporte Vesivre ben Sira, et Vesivre ben Sira, Shaya Ish Chaver Svarim, Baziot Benyane, Al-Farsa, Exa Shien Baem, Chokma, Velotuel. Alors, il dit ben Sira, et c'est une grande discussion, ben Sira, parce que c'est un philosophe, c'est un truc dans lequel le Rama dit qu'il n'y a aucune toilette, utilité. Pour nous d'apprendre, vous allez prendre Kant, vous allez prendre Eisen, hein? Mais la culture générale, si vous êtes capable de rentrer dans, si vous êtes capable de rentrer dans la Torah, vous aurez toute la culture. Bémet. C'est-à-dire que toute la notion de Kant, par exemple, la rationalité, l'esprit, etc. Vous allez voir Aristote, le Rambam, il a étudié Aristote entre guillemets. Il dit même le Rambam sur Aristote. Et si ce n'était pas son comportement, il serait arrivé à la prophétie. Vous imaginez? Donc, effectivement, alors, il y a ce qu'on appelle les sept, ce qu'on appelle les sept mada, sept sciences qu'en principe, on devrait apprendre. Science naturelle, philosophie, enfin, alchimie, etc. Ceux qui doivent faire ces sept sciences-là, déjà, ils sont déjà bâquis, ils sont déjà remplis de Torah. Alors, ils peuvent, à la rigueur, regarder parce que ça fait partie, effectivement, de connaissances, entre guillemets, générales. Maintenant, alors, ça veut dire quoi? Que je peux voir Hitsonim, je peux voir des choses. Lorsque quelqu'un est baki, il connaît tout, alors, à la rigueur, il peut lire. Mais c'est un danger. La Gemara, elle dit comme ça dans, si je ne me trompe pas, dans Maseret Yoma, elle dit comme ça qu'il y avait l'un des plus grands Kohen qu'a connu le peuple juif. Il s'appelait Yonohanan HaKohen. Kohen Gadol. C'était un Kohen Gadol. Vous savez ce que c'est déjà d'être Kohen Gadol? Vous me dites oui. Hein? C'est comment? Kohen Gadol, d'accord, il faut bien savoir, c'est qu'il est rentré que Kippour. Il restait quelques minutes, il ressortait. Ces quelques minutes-là étaient fatidiques. Il fallait qu'il soit évidemment pur dans tous les sens du terme, psychologie, hein, qu'il n'ait jamais frotté, etc. Évidemment. Mais quand il était là-bas, il ne devait pas penser même à faire une mitzvah. Genre, il rentre là-bas pendant quelques minutes, j'ai oublié de voir ma mère. Mitzvah qui vaut d'avem. C'est fini, mourir à l'instant même. où il rentre, il dit Shalom Bayit, j'ai oublié de dire au revoir à ma femme. Mine là, bon. Ou je lui ai donné la tzedaka. Peu importe. Il n'était pas concentré à ce qu'il devait faire. Rien qu'il pensait à quoi que ce soit. Vous imaginez le contrôle psychologique qu'il devait avoir le Kohen pendant cet instant-là. Dans le Saint des Saints. Ce Kohen-là, il a été Kohen pendant 80 ans. C'est celui qui a duré le plus longtemps. On rapporte que dans le deuxième temple, on attachait les Kohanim avec des ficelles, des fils, parce que chaque fois qu'il voulait rentrer, il mourait, on le sortait. Allez au deuxième, allez, on y va. Et il voulait, tout le monde voulait être Kohen Gadol. Parce que tout d'un coup, il voyait Akadosh Baruch Hu. Donc, hein, attends, moi j'ai envie de le voir. Quitte à mourir. Mais tu es prêt? Je suis prêt. Il pensait qu'il était prêt. Il rentrait et puis hop, une pensée. Oups, c'est fini. Ça y est, on retire. Comme ça, il est Kohanim parti. Lui, 80 ans, dans le premier temps. 80 ans, il n'y a aucun Kohen qui a duré autant de temps. Et alors, pourquoi il n'a pas continué plus? La camarade dit comme ça qu'il est, il a fini. C'est du Seigneur. Il a fini, il a renié toute la Torah. Comment? L'une des réponses qu'a dit la Gemara, Aya Kore Besifre Chitsoni. Il lisait des livres étrangers à la Torah. C'est pas possible. Kohen Gadol, 80 ans, il va dans le Saint des Saints. Il est capable, 80 ans, il lisait dans les toilettes, parce que là on a le droit, il y a dans les toilettes. D'accord? Enfin, c'est le bac, dans les toilettes. Non, il pensait qu'il était. Kohen Gadol, ça veut dire qu'il connaissait toute la Torah, qu'il était. C'était presque. C'est un prophète, pratiquement. Voilà. Et là, le Pierre Cabot, il dit, Afilo Yom Echad, il finit c'est Rabbi Yochanan, justement, qui dit. Il dit, même une heure avant ta mort, ne sois pas sûr. Bah, attends, on est fini, là, c'est sûr, de Ribbono Shel Olam, je veux revenir vers toi. Même une heure avant, ne crois pas que tu peux renier tout. La Gemara dit qu'il y en a même avant Samuel a renié parce qu'il a vu que ses enfants, ils commençaient à faire des choses, je ne vous donne plus rien, etc. Il a commencé à renier, c'est comme ça. Donc, encore une fois, même une heure. Pourquoi? Parce qu'on apprend de Rabbi et de Yochanan Kohen Gadol que lui, pendant 80 ans, il a été capable d'aller dans le Saint des Saints, qu'aucun Kohen a, et il a fini de l'autre côté. Et c'est impossible. Parce qu'il disait des livres, etc. Donc, c'est pour ça que, effectivement, on peut connaître les Madas, etc. Mais, après, alors quoi, il n'y a plus le Chelek Olam Haba. Bon, alors le Rambam, juste, il dit comme ça. C'est-à-dire que lui, il dit que le fait de lire des livres, et il dit comme ça, et alors regardez bien ce qu'il dit, la raison à laquelle, il dit, « Ela avud azman betvarim betelim » Il perd son temps avec des choses qui valent rien, entre guillemets, futiles. Alors, je ne dis pas, pour une femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Peut-être qu'elle, oui, elle peut aller à l'université, apprendre la philosophie, j'en sais rien. Mais elle risque après d'entraîner son mari dans autre chose. Le truc, c'est que le mari, lui, il doit étudier. Et mesdames, c'est que lorsque le mari dit, je vais aller à un cours, oh, attends, un shalom bayit, moi j'ai des hommes, je ne peux pas parce que ma femme ne me permet pas. Ma femme. Vous enlevez le srout à votre mari et vous enlevez votre srout à vous. Parce que vous n'avez aucun srout dans le limoud parce que vous n'avez pas de mitzvah. Mais votre mitzvah à vous, comme dit la camarade, c'est d'envoyer votre mari. Je ne veux pas te voir ici. Tu es là, tu as fini, t'inquiète pas. Le bébé, je m'en occupe. Les enfants, je m'en occupe. La cuisine, je m'en occupe. Tu vas étudier. Parce qu'en envoyant étudier, c'est mon mérite à moi. Je suis en train de gagner aussi mon olam haba à moi. Et malheureusement, j'ai des hommes qui étudient et me disent, ouais, mais ma femme m'appelle. Mais tiens, une gviout. Oui, mais là, elle m'appelle. Elle n'a pas compris encore que la gviout, c'est-à-dire un temps fixe. Alors, on n'a pas dit, maintenant, il va partir. J'ai besoin. Attends, je ne le vois plus. Il vient de travail. Il va dire, oh, où tu es? J'arrive à minuit. Il m'a dit, on a ma va pour toi. Non, mais il m'a dit ça. J'ai dit simplement que l'homme, il doit avoir un temps fixe. Il faut lui laisser ce temps fixe. Il ne peut pas lui enlever. Si son temps fixe, il a au moins une heure, par exemple, le dimanche ou un, ouais, attends, le dimanche, j'ai des enfants. Laissez-lui au moins un dimanche. En tout cas, une heure. Dans la semaine, il a une heure, laissez-lui. Parce que vous ne vous rendez pas compte combien ce mérite-là est. Je sais que c'est dur. Mais si vous lui dites, alors soit il dit, bon, alors, tu sais quoi, tu enlèves une heure de ton travail. Ah non, c'est dur, par NASA. Et là aussi, c'est dur, bon, alors, qu'est-ce que tout pour toi? Non. Effectivement, il va déjà faire la par NASA, il va travailler, c'est pour la maison. Mais qu'est-ce qui reste après? Tout ça, c'est dans le monde-ci. Mais dans l'Olamaba, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui... Vous êtes en train de mettre quoi? Un bout de steak? Mais c'est que dans ce monde-ci. Une belle voiture, c'est que dans ce monde-ci. 70 ans, la belle voiture, la Ferrari. Mais Olam Nitri, le monde éternel, que vous allez mettre tout ce que vous avez pris sur vous, sacrifice sur sacrifice, le mari aussi sacrifice, etc. Et vous apprenez aux enfants, justement, rinour éducation, sacrifice. Regarde ta mère comment elle était. Comment il était devenu Rabbi Yosef? Comment ils sont devenus tous ces gdolim-là? J'ai pas dit maintenant, j'ai pas dit, d'accord? J'ai pas dit maintenant que moi je dois prendre sur moi, etc. Ça, après, ça, je parle au mari. Là, je parle à vous. Après, je parle. Hein? Vous inquiétez pas, je parle à votre mari que vous devez avoir l'accord de la femme, etc., etc. Mais maintenant, je vais vers vous qu'effectivement, il faut comprendre combien, d'abord, la maison ne peut vivre s'il n'y a pas de toit. L'homme qui vient du travail, c'est un rhinocéros. D'accord? C'est un homme des cavernes. J'ai machin, tout ça. Il revient à Yeshiva, quand même, à l'étude, etc. Spirituelle, ça lui a donné déjà un petit peu, entre guillemets, en principe, de douceur. Mais quelqu'un qui fait que ça, ou. Pas possible. Donc, il faut lui donner aussi ce spirituel, et pour vous aussi. C'est-à-dire qu'après, c'est un accord entre la femme et le mari. Ok, alors moi, regarde, moi j'aimerais étudier, voilà, tel jour, j'aimerais tous les soirs faire dafayomi, je ne sais pas quoi, telle heure, etc. Ah, pas ces temps-ci parce que les enfants. D'accord? À partir de 10 heures. Ah, 10 heures, 10 heures, tu peux y aller. Il va aller avec son matelas et son blumard. Ouais, t'as vu ma femme, j'ai fait. Bon, je sais pas si tu auras quelque chose. Moi, il y a un qui m'en dit, mais déjà à 8h30, 9h, déjà... alors on en est où? Bon, c'est Chaval, il a rien gagné. Donc évidemment, arriver à. Mais c'est vrai que ces heures-là, alors fais qu'une heure. Tu arrives à 8h, 8h, tu dois t'occuper de la maison. Adkan, maintenant c'est que la maison. Mais il y a des maris qui viennent, n'est-ce pas? Et qui arrivent à 5, 6h, je sais pas quoi. Et puis, bon, alors tu fais quelque chose, ils font rien. Ils sont là en train de tourner en rond, en train de faire ci, enfin, dans le portable, dans l'ordinateur, dans le truc, ils font rien. Va étudier, je préfère encore que tu fasses une heure d'études. Moi, je gagne là-dedans parce que là, pour l'instant, je ne gagne rien. Et toi aussi, tu gagnes. Et quand tu vas revenir, tu vas quand même changer. Et combien de couples ont changé simplement parce que le mari a étudié même une heure, ne serait-ce qu'une heure? Parce que vous avez aussi un petit rendez-vous. Vous pouvez parler déjà avec le rave qui enseigne le mari. Regardez mon mari, etc. Alors, je lui en parlais au cours, je lui dissimulais, machin. Et ça fait que. Maintenant, évidemment, après, je ne parle pas de ceux qui sont plus à la maison. C'est un autre problème. D'accord? Ça, c'est un autre problème. Ça, après, il faut parler avec eux. Mais je parle déjà de cette notion-là d'acquérir le monde futur. Voilà. Ça, c'est juste le truc. Alors, pour finir, parce qu'on a, finalement, j'imagine, vous avez plein de questions et on n'a pas avancé grand-chose. Alors, pardon, la sixième. Ce sont tous ceux qui n'ont pas de remontre futur, qui font partie de la définition simplement, parce que là, je n'ai pas la Gemara dans Sota, elle pose une question. Elle dit, il y a un moment donné, écrit, Kol Adam Shiyesh Gasud Ruach, en Nena. Tout celui qui est orgueilleux, je prends pour je ne sais pas qui, pas de remontre futur. Attends, oh, il y en a trois. Et le Tosot, il dit, mais il n'y a pas que ça. Il dit dans Tuvot, etc. Ceux que, les vivants, ils n'ont pas de vie. Et il parle sous-entendu ceux qui font pas les mitzvot. Shabbat, tout ça, il est appelé mort. Hein. Racha, un mécréant, celui qui fait pas les mitzvot, il est appelé mort dans ce monde-ci déjà. Et un tzaddik, quand il est mort, il est appelé vivant. Parce qu'il continue à vivre sous sa tombe. Donc lui, il est mort. Ça veut dire que déjà il est mort, et il est même, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé ici sa fin de vie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le droit à l'Olam Haba. Le Tosso, il dit, bah, alors, alors tout ça, alors Matino, Bagada, donc on a vu qu'on a qui n'ont pas l'Olam Haba, sous-entendu, il n'y a pas que trois, il y en a d'autres. Alors regardez le listing de ceux, entre guillemets, qui n'ont pas l'Olam Haba. Amoumarim, bête, Amoumarim, c'est-à-dire Moumar, alors, bon, je ne vais pas en Moumar, c'est-à-dire quelqu'un qui est. Alors, c'est toi, toi, je mens, mais c'est quelqu'un qui est on parle de quelqu'un qui est complètement enfoncé dans une avéra. Même Shabbat, tout ça, il est, bon, c'est pas une avéra de fumer, mais il est addit dans un truc, il ne s'arrêtera pas. C'est Moumar. Alors, il y a Moumar l'été avant, c'est-à-dire pour le désir, il y a Moumar l'achi, ça c'est la pire. Moumar l'été avant, c'est pour le désir. Je ne peux pas sans ça. Ça, c'est déjà autre chose. Il y a Moumar l'achi, c'est-à-dire énervé. C'est pas Shabbat, tiens, mais comme ça je fume. Provocation et dire qu'il n'y a rien du tout. Et ça, il continue. Il fait non, c'est rien du tout, c'est des bêtises. Ça, hein, effectivement, ceux qui ne font pas Shabbat, c'est parce qu'ils sont d'ignorance. D'accord, je reviens à ce que vous posez. Vous vouliez me poser une question au début, je vous ai.
Oui, mais moi, c'est complètement différent. Je me pose toujours des questions sur l'âme, mais avant la naissance.
Avant naissance.
Alors, si, par exemple, qu'un couple est lié.
Les âmes se retrouvent.
Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'avant la naissance.
Oui, il y a des âmes, évidemment. Elle est là pour se retrouver, effectivement, tout à fait. Et elle s'est fait vers Soubassa Echad et devenue une seule chair. Lorsque l'homme et la femme se retrouvent, c'est cette âme-là qui est en fait une seule et même âme. On est moitié-moitié quand on n'est pas marié. Quand on se marie, on est l'âme unique. D'accord ? Oh, le type, ce couple-là, il est mort et il s'est marié avec une autre. Alors, qu'est-ce que c'est cette âme-là ? Et quand l'homme, il va se retrouver avec plein d'hommes, avec plein de femmes, avec je ne sais pas quoi. C'est une seule et même âme. Et la véritable âme, c'est celle qui était au départ. Cette âme, l'autre, elle ira avec celle qui était au départ. C'est-à-dire, c'est l'âme qui était. Bon, pas entraînant parce que c'est pas. Mais. Donc, c'est-à-dire, alors il dit, un marty est arabim, celui qui faute les autres. A filou alvor al assé. Par exemple, oh, je t'en prie, c'est fini, t'as pas besoin de mettre ces chutouillottes, c'est une bêtise. Ah ouais, le rabbi l'a dit comme ça, bon, on va pas le mettre.
C'est pas la faute.
Hein ? Le rave.
Non.
Qui poussait à la faute. Mais c'est pas seulement un. Donc, imaginez que. C'est pour ça que les rabbanim, ils ont une épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Parce que si tu vas dire quelque chose, c'est cachère. Alors que c'est pas cachère. Mais c'est des tonnes de gens qui vont manger pas cachère. Mais tiens sur toi. Non, mais ça, c'est permis. C'est pour ça que le rave, le dayen, tout ça, il doit faire très attention avant d'ouvrir sa bouche, de dire quoi que ce soit. Peur de faire tomber des gens, pas sur une personne. Moi, j'ai eu des personnes. Ah, il a dit qu'il a des gueules. 50 personnes, il a des gueules. Je viens voir le rave, je dis, ah bon, vous avez dit ? Non, j'ai dit comme ça. Je dis, ouais, mais il fallait bien préciser parce que maintenant, ils ont mal compris de travers et vous avez un mignon de gens qui ont fait autrement de ce que vous avez. Donc, c'est pour ça que le rave, lorsqu'il doit dire une loi, il doit savoir que lorsqu'il va dire à une personne, cette personne va dire à l'autre personne, la personne, etc. Donc, fais attention lorsque tu dis que ça doit bien clair. Ou sinon, c'est ça. Donc ça, c'est Marty, celui qui faute le public, parce que va dire maintenant à tous ceux qui ont, va dire, fait tchouva, etc. Va, pour Resh, Midarke Tzibour, chez Loasa, Shumavera. Le type, il n'a fait aucune avera, mais il ne veut pas faire comme le Tzibour. Rak chez Nomishtatef, Imakal et Tova, et Tova. On est dans une choule, et tout le monde est content pour le khatan, etc. Il dit, ah, j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire, il sort de ça. Tachanonim, on ne fait pas tachanonim. Et lui, il dit, non, ma piton, tachanonim, il faut faire. Enfin, il faut pleurer sur. Mais toi, la communauté ne fait pas. Tu dois être en symbiose, en osmose avec ta communauté. Si tu vas à chaque fois à l'encontre de ta communauté, c'est-à-dire poresh. C'est-à-dire que tu sors de la communauté. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu es mieux qu'eux. Ça, un lourd, il est clair à ma part. À Moser, chez Moser, Chavero, au maman, le Chavero, Biad Anas. Vous avez, par exemple, les impôts. Vous avez, je ne sais pas qui, vous avez un non-juif qui vient. Ouais, tu es. C'est qui le Ben Soussan qui est là, tout ça. Il va voir. Moi, si vous lui dites, c'est Moussed Moser, vous le trahissez. C'est-à-dire que maintenant, il va dénoncer. Voilà, chercher le mot. Dénoncer. Celui qui dénonce et tout ça, elle l'aurait les clans là-bas. Tu dois mourir, mais tu ne l'as pas dénoncé. Non, un juif, on parle d'un juif. Oui, oui. Bon, après, c'est un problème d'arché shalom, etc. Ça, il faut dans le contexte. Mais là, on parle que des juifs. À Parnes, on m'a-t-il Emma Yetera. Alors, c'est intéressant. Vous avez celui-là qui donne de l'argent pour la yeshiva, etc. Mais il vient avec son truc. Celui qui n'est pas à l'heure, il aura. Tout le monde tremble de ça. Il n'a pas le droit. Lorsque tu donnes l'argent, tu essayes d'aider une commune, une yeshiva, un kollel ou peu importe, tu ne dois pas mettre une pression plus que ce qu'il y a déjà comme pression. Et on connaît certains endroits où on ne se rend pas compte les gens qui donnent l'argent, parce qu'ils ont l'impression que comme je donne l'argent, alors j'ai une supériorité par rapport aux autres. Et donc, j'ai le droit de demander ce que je veux. Et ça, c'est un gros problème. D'accord ? Déjà, pour ceux qui étudient, par exemple, c'est déjà assez compliqué, éprouvant, etc. Non, mais si vous sortez, ou si vous buvez, ou si machin, ou si voilà, alors là, je vous enlève de ça. Donc, le type, il est obligé de faire attention, parce que si on l'enlève, parce que déjà, il ne gagne pas beaucoup, j'en connais qui sont sortis. Ça, c'est... Il n'a pas le moment de futur, celui-là. Pourtant, il fait misa. Mais ta misa, elle n'est pas... Il déracine, il fait dégoûter, entre guillemets. Alors, évidemment, chauffeur d'amim, celui qui tue quelqu'un, d'accord ? Il dit comme ça. Il fait de telle sorte que la personne, elle meurt. Il veut se venger, il ne va pas lui tuer, mais il va amener des avim, je ne sais pas quoi. Tiens, lui, il voulait le truc, je te donne l'argent, par exemple. Baal Hashonara, celui qui fait la médisance. Ah, tu te rends compte, il a dit ça, machin. Quand on dit Baal Hashonara, c'est. Alors, vous voyez les cours que j'envoie, refaites. D'accord ? Baal Hashonara, ça veut dire celui qui est maître dans la Hashonara. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a fait une fois, il fait comme ça, après ça, je me dis, non, excuse-moi, j'ai l'air. Bon, ça y est, un lit, le chélok, le mamba, il va pas dormir la nuit. Non, c'est celui qui vit de ça, sans arrêt. D'accord ? C'est ça. Il y en a qui sont comme ça, sans arrêt de parler et de dire. À Moshe Borlato. Bon, ça, c'est, par exemple. À Machish Biat Mashiach. D'accord ? Etc. Mais le roi, t'as moi. Alors, Machish, ça veut dire qu'il. C'est un peu comme qu'il remet en question simplement le Mashiach. Ah, t'en prie, chaque fois, ma grand-mère déjà me disait Mashiach, il est jamais venu. Hein, quand tu vas dire Mashiach, c'est un Mashiach, il remet en question. C'est pas qu'il croit pas au Mashiach. Il croit, mais il dit, ah, je t'en prie, il revient, il viendra pas maintenant. De toute façon, on a du boulot, il y a plein de choses à faire. Donc, il va. Becholion Shavo, Animanin, je crois, ça fait un mésin, que chaque jour il arrive le Mashiach. Donc, je peux pas me remettre en question ça. Celui-là n'a pas le Chenoklon à maman. Après, il dit après, v'yesh avirot kalot sharagil ba'em en lo chelak lo mava. Maintenant, il y a des fautes qui ne sont pas des fautes si graves que ça, mais qu'il est habitué à faire, il n'a pas de remont de futur. À savoir, celui qui frappe son ami, qui donne un surnom à son ami. Par exemple, toujours, t'es tout à fait. Par exemple, elle s'appelle, route. Oh, c'est la route de truc, la route 66, c'est un machin, et arrête sans arrêt. Et il dit ça sans arrêt. Il est habitué à dire toujours des surnoms, des machins, que ça déprécie la personne. Alors, il est comme un maman. À Malvin, justement. À Malvin, Pénéchabé, celui qui fait honte à son prochain. Etc. D'accord ? Alors, il est comme un maman. Amit Kabeb et Kalrabeo, le type, il est tombé. Ah! Et tout. C'est vrai que ça fait rire parce que c'est inattendu. On n'a pas le droit de se moquer. Et tout ça, c'est dans le chinour. Si on n'apprend pas ça aux enfants, je vois des enfants dans l'école, etc., qui se moquent des autres, par exemple. Mais ça, c'est un problème d'éducation. Parce qu'elle a vu les parents se moquer de l'autre. Oh, tu dis, sa voiture, elle est comment ? À me baser, à moi d'autres. Bon, après, c'est à me baser, à moi d'autres, celui qui s'en fiche de Chol HaMoed ou pendant les fêtes. C'est Chol, d'accord, il y a du Chol. Non, c'est Moed aussi, c'est des fêtes. Alors, entre, par exemple, Pessah, etc., tout ça, il faut savoir, c'est quand même bien s'habiller, c'est quand même avoir un certain kavod, bien manger, c'est pas, on a droit de faire certaines choses, mais c'est pas faire comme si c'était. Voilà. Et ensuite, il y a Mechalel Kochim. Après, ça, c'est Mechalel Kochim. Des choses qui sont kadosh, des sidurim, ou je ne sais pas, des trucs qui sont kadosh, et je suis Mechalel. Je prends un sidour, et c'est trop. Je prends les sidours, j'essaie de fermer la fenêtre parce que je n'arrive pas au. Entre guillemets, c'est un peu Mechalel. C'est-à-dire que, mais, encore une fois, s'il le fait une fois, ce n'est pas grave. Mais il le fait tout le temps, sans arrêt qu'il est chose sainte, il est voilà, ça veut dire qu'il méprise entre guillemets, donc en lo chelek lo lababa. Donc on voit ici, ça veut dire quoi? Je finis avec ça maintenant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la neshama, elle est là, elle va s'imprégner sans arrêt de mitzvot, comme on a dit, le scaphandre ou l'ascenseur, il va s'imprégner de pour pouvoir ensuite atteindre ce olam haba. On lui a donné cette chance-là, et maintenant, c'est Akadosh qui l'a donné, c'est pas nous, c'est Akadosh qui nous l'a donné. Et c'est pour ça que ce cadeau qu'il nous a donné, si on on l'utilise pas à bon escient, alors la maquette est terrible. La faute, la frappe est terrible. Je vous ai donné tout. Je vous ai donné un billet d'un million. C'est rien, un million, mais en tant qu'exemple, 1 million d'euros. Tu as fait que ces bêtises-là. C'est tout ce que tu as su faire. Tes enfants sont dehors, etc. C'est tout ce que tu as su faire. Au lieu de bâtir quelque chose, on a rien fait. Alors, tu sais quoi? À partir de maintenant, tu n'as plus rien. Tu sors d'ici, je ne veux plus te voir. À quel point il nous a laissé les chamas, c'est pour ça que même des petites avérotes qu'on a l'habitude de faire, allons, mais tu as ces chamas, tu as cette potentialité de te reprendre. Alors il y a la tchouva. La tchouva nous permet justement de récupérer et d'avoir ce olam haba. Donc celui qui n'a pas un olam haba, c'est qui vit là-dedans. C'est que pour lui, quand on dit, c'est pour ça qu'il y a les trois, parce que quand on est arrivé à dire que il y a patriatamitim où la Torah elle va etc. C'est-à-dire que dans son essence même il n'y a même pas neshama, il y a rien. C'est-à-dire que pour lui l'homme il vient, il est né, c'est un bout de chair, le Big Bang il est arrivé, plaque, il retourne comme une rien du tout, d'accord? Donc on n'a rien qu'à profiter dans ce monde-ci. Tu sais quoi, tu as raison, profite, je te donne ce monde-ci, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas être célèbre etc. Mais c'est fini pour toi, l'eau à la manitrie, parce que tu n'as même pas compris ce que tu es. Maintenant, même pour ces petites avérotes-là, ces petites fautes-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ou la shonara, c'est pas des petites avérotes. C'est-à-dire que ces fautes-là, c'est pas si quelqu'un fait de la shonara, la médisance, d'accord? Ça veut pas dire qu'il a plus le lamaba. Yesh lo tshuva, il peut faire tshuva, parce que c'est juste, c'est encore une fois, c'est son tsad, c'est son côté négatif en arrière qui va le pousser à faire des avérotes. Mais qui peut se reprendre. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de tratamédic, c'est il n'y a plus de côté positif, il n'y a plus rien. Il est complètement dans une enveloppe qui est négative. Hein? Dans la Shonara? Eh bien évidemment qu'il n'a plus, c'est le bal à la Shonara. Il n'a plus le droit au monde futur. Mais ce n'est même pas ça. C'est que celui qui dit des surnoms, oh, ça va, des surnoms, mais il est sans arrêt, c'est le comédien, le problème de l'etzanout, de se moquer. D'accord? De sans arrêt de se moquer de quelqu'un, de là, chazé shalom. Je vais vous raconter une petite histoire, une dernière petite histoire, et on finit avec ça, justement pour vous comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Tamid Raham, ou qu'est-ce que c'est qu'un. Une fois, je voyageais de Yerushalayim à Bnei Brak, j'étais Bachour à ce moment-là, et comme tout Bachour, enfin bon, c'était plutôt moi, je voulais pas que. Vous savez que les autobus, alors, le premier truc, c'est les hommes, et derrière, c'est les dames qui allaient derrière. Donc les dames rentraient pas derrière, les hommes rentraient devant. Alors. Moi, j'ai mis mon sac là, j'étais au fond pour qu'il n'y ait personne, je suis tranquille. Le chemin, c'est Motsé Shabbat, j'arrive jusqu'à Bnei Brak. Bon, après, je regarde qui c'est qui monte. Bon, Hachem, le bus allait partir, on arrive à la Trempiade où malheureusement il y a eu cet attentat. Hein, c'est le dernier, en principe, il ne s'arrête pas là. La dernière station, moi j'ai dit ça y est, je suis content, il n'y a personne, tout le monde je vois qui est assis, donc moi c'est bon, je suis tranquille. S'arrête aux dernières stations et qui rentre devant? Bon, une russe habillée, alors je ne vous dis pas comment et tout ça. Je dis, oh, Khaled, je dois te laisser. Et je travaille, vous, ce soir, côté de moi. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bah. Bon, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, je n'ai pas vu. Elle s'est assise à côté. Il y avait un type avec une barbe blanche, tout ça. Il s'est un peu poussé. Il s'est mis comme ça. Je dis, moi, j'avance. Je dis, moi, attends, moi, je suis un jeune et tout ça. Et j'ai mon sac. C'est vrai que je vais l'inviter à côté de moi. Alors, je suis allé la voir. Je lui ai dit, regardez, est-ce que ça vous dérange pas de vous asseoir derrière? Vous gardez mes sacs et moi je m'assois devant. Elle était très contente et lui, bon, il n'a rien dit. Je me suis assis à côté de lui. Puis je regarde comme ça et puis je regarde. Après, il me dit, t'as joué l'autre, il a mal au quartier. Il me pose la question, là, tu me poses la question pourquoi je ne me suis pas levé? Parce que franchement, je ne vais pas vous décrire, mais elle était jupe qui arrivait. Alors, je dis, bon, j'avais honte. Je dis, d'accord, tu peux me dire. Il dit, regarde, il y a deux interdits ici. Il y a l'interdit d'être assis à côté d'une femme, voilà, Nida, etc., qui est avant. Et il y a l'interdit de malbin peder chavero, de faire honte à quelqu'un en public. Il y a deux interdits. Mais là, c'est un interdit des sages, et là, c'est un interdit de la Torah. L'interdit des sages, c'est s'asseoir à côté d'une famille d'A, etc., c'est interdit des sages. Et là, c'est un interdit de la Torah de faire honte à son prochain. C'est pour ça que je ne me suis pas levé. Et pour moi, j'ai compris, à ce moment-là, c'est jeune, j'ai compris, voilà, c'est comme ça que la vie, elle doit diriger. C'est pas parce qu'on est très religieux, alors on va balancer, on va faire, etc. Non, tout doit être mesuré, posé, et savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Pourquoi? Parce que chaque pas que tu fais, c'est derrière ta torchelek l'olamaba. Chaque fois que tu fais, même dans la mitzvah, même quand tu penses que c'est une mitzvah, sache une chose, est-ce que la mitzvah, c'est de pousser la personne qui a les doigts pour embrasser le Sefer Torah? Je veux dire, c'est pas grave, j'embrassais pas le Sefer Torah.